Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et mémoire sur Radio Grand Ciel. Comme chaque mois, avec les archéologues de la ville de Chartres, nous vous faisons découvrir d'autres facettes de l'histoire locale, grâce notamment aux découvertes faites lors des fouilles ou études menées à Chartres par les archéologues. Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon collègue Stéphane Herouin, anthropologue au sein de la direction de l'archéologie, pour partager ses connaissances sur les pratiques funéraires de nos ancêtres, depuis l'époque néolithique jusqu'au 19e siècle. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, a priori, la mort est un sujet qui n'est pas forcément évident, et pourtant, c'est un sujet d'étude principal, source de nombreuses réponses aux questions que peuvent se poser les archéologues et historiens. Alors Stéphane, en introduction, qu'est-ce que le métier d'anthropologue ?
Mais en fait, au sens littéral du terme, l'anthropologie est l'étude de l'homme et de son évolution. En archéologie, ça va concerner essentiellement l'étude, bien sûr, des squelettes, leur étude biologique, métrique, pathologique en particulier, et aussi, dans un deuxième aspect, l'étude de ces pratiques funéraires.
Et à quoi ça sert d'étudier les morts ou les pratiques funéraires, Stéphane ?
En fait, à travers l'étude des morts, nous allons tenter de mieux connaître la population vivante à une époque. En l'absence de textes, en particulier donc pour les périodes les plus anciennes, les seuls éléments que nous allons avoir sur ces populations viennent de l'archéologie. Et les seuls éléments qu'on va avoir sur la caractérisation de ces populations, ce sont les squelettes en particulier. Ça peut se révéler assez difficile puisqu'on a différents biais, en fin de compte, entre la population vivante et ce que l'on trouve en archéologie.
Bien sûr.
Ce qui va se concerner en particulier les pratiques funéraires, puisqu'on ne va pas retrouver forcément tous les morts, la taphonomie, des interventions ultérieures, comme les pillages en particulier, la conservation des ossements, etc.
Donc, même s'il y a ce biais, le lien avec la population vivante, vous le faites comment ?
En fait, on va essayer d'étudier le maximum de squelettes. Alors, plus l'échantillon est grand, plus il sera représentatif de cette population. Et c'est en comparant différents sites qu'on va pouvoir avoir une image de la population vivante à une époque.
Donc, on va essayer avec cette photographie d'en savoir un petit peu plus sur nos ancêtres. Nous allons entrer donc dans le cœur de notre sujet. Et pour vous guider, chers auditeurs, notre émission va s'articuler autour de deux parties aujourd'hui avec Stéphane. Tout d'abord, un panorama donc des gestes qui accompagnent les défunts au fil des siècles. Et puis, on évoquera quelques sites et découvertes emblématiques. Alors Stéphane, comme vous venez de dire, les pratiques funéraires varient. Elles vont évoluer aussi selon les siècles. Et elles relatent des gestes. Et qu'est-ce qui attire donc votre attention ?
En fin de compte, dès le départ, le travail de terrain, ce que l'on va mettre en évidence, nous anthropologues, sur ces sépultures en particulier, ce sont des gestes. Et c'est la répétition de ces gestes qui vont nous faire dire qu'il existe, pour cette période, une pratique particulière.
D'accord.
Ce qui, si on peut aller encore plus loin, ces pratiques sont normalement issues effectivement des croyances de populations vivantes à l'époque. Et on va essayer de remonter jusque-là.
Donc on va un petit peu en savoir un peu plus donc sur les croyances. Et quelles sont du coup les pratiques, je suis novice en la matière, les principales pratiques funéraires connues ?
Alors bien sûr, on pense aux deux principales pratiques funéraires que sont l'inhumation et la crémation. Mais ce qu'on entend, nous, par pratique funéraire, ça regroupe beaucoup de choses. Ça ne regroupe pas uniquement la façon, on va dire, d'enterrer ou de brûler le mort. Ça va être aussi les modes de dépôt, la position du défunt, le mobilier associé, etc.
Donc, le mort et tout ce qui accompagne, tous les gestes qui l'accompagnent autour, comme vous disiez, qui sont souvent liés à des croyances ou des pratiques pour
voilà,
une période donnée. Et quels sont, du coup, les premiers vestiges de tombes, alors là, on va un peu extrapoler, mais connus dans le monde ? À quand remonte cette connaissance des gestes funéraires ou des croyances liées à la mort et à l'accompagnement du défunt ?
Alors les toutes premières sépultures avérées, c'est-à-dire celles où on est certain qu'il s'agit bien de sépultures, elles sont trouvées dans le Proche-Orient, il y a à peu près 100 000 ans. Ce sont les sites de Kafzeh et Skoul en Israël. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette pratique de l'inhumation est faite par Homo sapiens sapiens, mais aussi par l'homme de Néandertal.
D'accord.
En Europe, là, donc, plus l'homme néandertal.
Mais du coup, à Chartres, ou alentour hein, d'ailleurs, quelles sont les premières traces connues de pratiques funéraires ?
Alors, pour la région chartraine, on peut citer bien sûr les dolmens de Saint-Piat, enfin de Changé, près de Saint-Piat, en particulier le dolmen Petit, qui est une sépulture collective, donc c'est-à-dire que l'on amène les morts au fur et à mesure des décès, donc il y a plusieurs morts dans une même sépulture, et ça date à peu près de 3500 ans avant Jésus-Christ.
D'accord.
Plus proche de nous dans le temps, une fosse a été découverte à Sours, donc c'est une fosse qui présente en fin de compte la forme d'une sépulture. Il n'y a pas d'ossements dedans, il y a un vase retourné, mais on pense qu'il s'agit d'une sépulture dont les ossements auraient totalement disparu. Et elle date de la transition de l'âge du bronze à l'âge du fer, c'est-à-dire 800 ans avant Jésus-Christ à peu près.
Alors là, j'ai une question, Stéphane, sur le terrain justement. Comment vous retrouvez les ossements? En quel état? C'est exploitable à chaque fois? Est-ce qu'il y a, vous dites là, une fosse, mais on n'a pas retrouvé forcément les ossements?
Voilà, nous avons le problème de la conservation des ossements, comme je le disais tout à l'heure, c'est un des biais de notre étude, puisque si le sédiment, par exemple, est particulièrement acide, ce qui est le cas dans la région, eh bien les ossements vont disparaître. Donc plus on va remonter dans le temps, moins on aura de chances à retrouver les squelettes.
D'accord. Donc on sait donc qu'on a des traces donc de sépulture et d'inhumation à l'époque, on va dire, préhistorique. Et sur le territoire chartrain, Stéphane, puisqu'on a parlé de Changé près de Saint-Pierre et de Sours, est-ce qu'on a des indices de pratiques funéraires ?
Alors le site a été trouvé récemment, hein, puisque c'est pour les travaux du futur parc des expositions, donc lors d'un diagnostic, a été découvert un bâtiment circulaire sur poteau. Donc c'est lui qui est daté, mais il est entouré de trois sépultures à inhumation. Et là, nous sommes au premier âge du fer, on va dire, donc entre 800 et 500 ans avant Jésus-Christ.
D'accord.
Ce sont pour l'instant les plus anciennes traces de sépultures que nous ayons sur Chartres même.
Donc on est à l'époque gauloise à ce moment-là.
On est un petit peu avant, c'est le premier âge du fer.
Et est-ce que dans ces sépultures, ces trois sépultures à inhumation, vous avez retrouvé du coup les ossements complets ou c'était très dégradé et quels indices vous avez pu en tirer? Sauf si l'étude est en cours, bien sûr.
Alors non, l'étude a été faite, elle a été assez rapide puisque les sépultures sont assez mal conservées, effectivement.
Ah mince. Alors... dans les émissions précédentes, on avait justement évoqué des nécropoles gauloises, notamment sous le cinéma Les Enfants du Paradis et sous les rues Casanova et Nicole. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu le contexte de cette découverte et comment ces nécropoles fonctionnaient ?
Alors tout à fait, ce sont deux découvertes intéressantes puisque là on est vraiment sur le territoire de la ville chartraine. Une vingtaine de sépultures à crémation ont été trouvées sous l'actuel cinéma. Et une dizaine de sépultures à crémation près de la rue Nicole et Casanova. Et deux inhumations de jeunes bébés. Ça, je vais y revenir. Alors, ce qui est intéressant dans ces sépultures, donc dans ces deux nécropoles gauloises qui étaient inconnues jusqu'alors, c'est que nous avons la pratique de la crémation qui est très développée, en fin de compte, pendant l'âge du fer, même si on trouve encore des inhumations. On peut citer le cas, par exemple, d'une des sépultures à crémation en vase. Alors, on a les crémations en vase et en fosse. On a les deux types sur les deux sites. D'accord. Et sur le site Casanova, donc, en particulier, il y avait un de ces vases avec une association de quatre fibules à l'intérieur. Donc, deux fibules en fer et deux fibules en alliage cuivreux. Et sous le vase, il y avait un miroir en alliage cuivreux rectangulaire, quatre perles en ambre et une monnaie. Ce qui fait quand même un dépôt assez riche, on va dire.
Assez riche. Et du coup, est-ce que ça indique une catégorie sociale vis-à-vis du défunt ou est-ce que c'est courant, ce type alors, je ne sais pas si ce sont des offrandes ou des objets personnels, ces fameuses fibules.
Voilà, alors on va avoir effectivement à la fois des objets personnels que l'on va retrouver dans ces crémations et aussi des dépôts. Alors, offrande, c'est on évite un petit peu parce qu'il faut vraiment démontrer qu'il y a une croyance derrière, etc. Mais ça peut être des dépôts aussi d'ossements animaux, des restes par exemple de repas, etc. Que l'on va retrouver en même temps que le dépôt des ossements brûlés du mort.
Mais ça n'indique pas, du coup, une catégorie sociale particulière. Alors, il n'y a peut-être pas assez d'exemples pour faire un
là, lien. C'est vrai que je vous ai dit, hein, il y a une dizaine de sépultures à crémation sur Casanova, donc c'est un échantillon assez faible. Mais c'est vrai que quand même, on trouve plusieurs de ces vases avec du mobilier associé et en abondance. Donc on peut se poser la question, effectivement, sur la catégorie sociale de la personne.
Stéphane, moi j'ai quand même une interrogation parce que je vous ai vu sur le voilà au laboratoire étudier et quand il y a une crémation en vase comme ça, je vous ai vu étaler l'ensemble des ossements brûlés, un vrai travail de fourmi. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Alors en effet, l'étude des sépultures à crémation et en particulier en vase, puisqu'on va les prélever en mode sur le terrain, donc elles vont être fouillées en laboratoire par l'anthropologue, est assez particulier. Et amène aussi des indications un petit peu originales, je vais dire. En fin de compte, ce que l'on va faire, c'est essayer de fouiller ce vase par passes successives, de 2 cm environ, en notant bien, tout ce qu'il faut noter, bien sûr, comme d'habitude, donc le mobilier associé, la position des ossements, etc. Ensuite, tout va être trié par région anatomique, et donc les grandes régions anatomiques, on va dire, membre supérieur, membre inférieur, la tête, le tronc, etc. Pourquoi on fait tout ce travail? Parce qu'on se rend compte donc, que dans certains vases, il y a un ordre dans le dépôt. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on sait que ça veut dire soit l'officiant a amené le vase près du bûcher et a récolté les restes de l'individu brûlé dans un sens particulier, soit il a utilisé un sac, puis verser le sac dans le vase, et là on aurait l'ordre inverse de ramassage. Mais surtout, ce que ça nous indique, c'est que le bûcher lui-même n'est pas conduit, alors c'est un terme technique, ça veut dire que l'officiant à côté ne vient pas ramasser les bûches au fur et à mesure du bûcher, de la combustion, pardon, qui provoquerait le mélange des ossements.
D'accord. C'est fabuleux de savoir ça, parce que du coup, ça comme vous le disiez au début de l'émission, ça indique vraiment les gestes qui accompagne la mort, en fait.
Alors, c'est pas dans le cas majoritaire. Hein. Nous avons très souvent un mélange des régions anatomiques, mais nous avons quelques cas. Donc, sur les deux nécropoles que nous avons citées tout à l'heure, le cinéma et Casanova, nous avons le cas, effectivement, de vases où les dépôts sont ordonnés.
Du coup, Stéphane, si je comprends bien ce que vous me dites, l'officiant, celui qui s'occupe du bûcher, reste là tout au long de la crémation à côté du bûcher. Les autres personnes sont là aussi. C'est toute une cérémonie autour de ce bûcher.
Alors, il y a probablement effectivement des cérémonies associées à ces bûchers, en particulier, bon, bien sûr, l'apport du corps sur le bûcher. Là, on peut se douter qu'il doit y avoir des processions. Avec jusqu'au démarrage, je veux dire, du feu. Ensuite, probablement, l'officiant reste à proximité en cas de problème. Aussi, s'il doit ramener, comme je disais tout à l'heure, les bûches, etc., pour conduire le feu, on va dire. Donc, c'était pour qu'il reste allumé, tout simplement. Et puis ensuite, il y a probablement une autre procession, peut-être, ou en tout cas, on va dire, il y a des rites, pour le transport du mort vers la nécropole. Puisque, par exemple, là, sur ces deux nécropoles-là, nous n'avons pas retrouvé de bûcher en place. D'accord. Ils sont probablement pas très éloignés, mais nous ne les avons pas trouvés. Donc là, on sait que les cendres ont été transportées.
Donc il y aurait deux lieux distincts dans cet accompagnement des morts, le bûcher et véritablement la nécropole, là où on dépose en fait les restes, c'est ça?
Voilà, parce que là, nous, pour ces deux cas-là, en tout cas pour ces deux sites-là, nous n'avons pas retrouvé les bûchers. Donc forcément, les nécropoles, enfin les crémations que nous avons retrouvées ont été transportées.
D'accord. Et pour avancer un petit peu dans le temps, est-ce que vous avez des indices de nécropoles ou d'autres lieux funéraires à l'époque antique qui suit?
Alors oui, nous avons des indications d'après du 19e siècle en particulier, lors de la construction de la voie ferrée Chartres-Paris, donc dans la vallée des Vouroux, où ont été retrouvées des stèles funéraires, dont deux auraient été dédiées à Flavina et Flavius, qui pourraient être des indices d'une nécropole des 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Alors le problème, ce sont des découvertes du 19e siècle, donc nous ne savons pas réellement si les stèles sont en place, et donc indiquent la nécropole de cette époque, ou si elles ont été transportées à cet endroit-là pendant la période antique. Plus récemment, on a retrouvé donc un espace dédié au dépôt des tout petits reverdis, mais je crois que vous en avez déjà parlé. Alors, C'est des dépôts un peu particuliers puisque ce sont des fœtus et nouveau-nés qui sont déposés dans des vases, dans une ancienne carrière, à la fin des 2e et début du 3e siècle. Alors j'insiste, hein, il ne s'agit pas de crémation puisqu'il est
Ils
rigoureusement
sont,
interdit de
voilà.
brûler les enfants pendant la période antique.
Et ils ont, du coup, comme on l'avait effectivement vu dans une émission précédente, ils ont un espace dédié, hein, les tout petits ne
Voilà.
sont pas mélangés avec les adultes ou les enfants.
C'est un espace un peu particulier, effectivement, là, qui est vraiment dédié au dépôt de ces petits-enfants.
Et vous avez trouvé d'autres indices, du coup, de lieux funéraires à l'époque antique?
Alors, nous avons quelques crémations du 3e siècle dans le quartier Saint-Chéron, donc ce qui montre que la crémation est encore utilisée au 3e siècle. On en reparlera plus tard, mais il faut bien sûr évoquer la fosse monumentale de Saint-Martin-en-Val, avec donc plus d'une centaine d'individus qui sont déposés dans une grande fosse. Et là, nous sommes à la fin du 3e siècle.
Alors pour mémoire, à Saint-Martin-en-Val, c'est le sanctuaire antique, hein, qui se trouve dans le quartier des Babours.
Tout à fait. Et ensuite, il faut parler eh bien, de la première grosse nécropole qui a été trouvée dans les années 90, donc la nécropole de Saint-Barthélemy, qui date du 4e siècle après Jésus-Christ. Et là où nous n'avons que des inhumations. Donc visiblement, vous voyez, entre le 3e siècle et le 4e siècle, on abandonne la crémation. Mais ça, on y
Donc un
reviendra.
changement d'accompagnement, un changement de geste, comme vous le disiez tout à l'heure en début d'émission.
Tout à fait. Alors cette nécropole, eh bien, elle est constituée, on va dire, d'une centaine de tombes. On trouve deux groupes distincts, par exemple par l'orientation de ces tombes. Donc il y a des tombes qui suivent la direction ouest-est et d'autres sud-nord. Donc on voit déjà qu'il y a une variation, vous voyez, des pratiques funéraires dans une même nécropole. Et puis on va trouver des gestes un peu récurrents, donc avec l'utilisation majoritaire d'un coffre cloué. Voilà. Les individus qui sont déposés sur le dos. Du mobilier abondant, puisque plus de 70% des sépultures présentent du mobilier
Des
associé aux
objets.
morts, donc qui peuvent être les effets personnels du défunt, comme des colliers de perles, bracelets, bagues, fibules, par exemple, et des objets déposés avec le défunt, comme des céramiques, des récipients en verre ou des ossements animaux. Et ce qui est intéressant pour cette nécropole, c'est que certaines des tombes ont des niches latérales, donc à côté des fosses, où peuvent être déposées, par exemple, les offrandes animales. Donc on a retrouvé en particulier des poulets dans des petites assiettes.
Des repas pour accompagner les morts ou les restes
Ou
du
des offrandes,
banquet
voilà,
funéraire,
tout à fait.
d'accord. Et juste question peut-être idiote pour vous qui êtes un spécialiste, mais maintenant qu'on est dans une pratique d'inhumation, là vous parliez d'un coffre avec des clous, est-ce que du coup les morts sont enterrés dans des cercueils ou à même la terre quelle est la pratique qui semblerait la plus courante?
Alors, on va retrouver plusieurs pratiques en fin de compte. Et à l'échelle du site, par exemple, de Saint-Barthélemy, on sait que c'est un usage très récurrent de ce coffre cloué, ou cercueil, s'il a servi au transport du mort.
Alors, autre question, Stéphane, où se situent ces nécropoles? Parce que moi, dans mes mémoires de cours d'histoire, la nécropole, elle n'est pas forcément dans le cœur de la ville.
Alors tout à fait, pendant la période antique, puisque nous sommes là pendant la période antique, les morts et les nécropoles sont situés à l'extérieur des villes, et ce n'est pas lié au hasard, puisque c'est une loi, enfin c'est une règle funéraire de la période antique, puisqu'il ne faut pas ensevelir ni brûler, en fin de compte, les morts dans la ville.
D'accord. Et est-ce qu'on a le nom de cette loi? C'est un texte connu?
Alors oui, c'est un texte très connu, hein, c'est la loi des 12 tables, et par exemple, les règles funéraires sont dans la table 10. Donc c'est cette loi qui est écrite en fin de compte au 5e siècle avant Jésus-Christ.
Merci Stéphane pour ce premier aperçu des pratiques funéraires qui accompagnent nos défunts. Donc là, on l'a vu de la période préhistorique à l'époque antique. On a fait un beau panorama et compris qu'il y avait différentes pratiques entre crémation, inhumation, offrande. On va faire une petite pause musicale avec un groupe, c'est une petite blague d'anthropologue, mais en lien avec la thématique de l'émission Dead Can Dance. Et on se retrouve juste après pour aborder un ensemble, une découverte particulière en lien avec l'époque antique. À tout de suite.
Thank you. walk through that door. Sometimes I feel like I wanna fly, reach out to the painted sky, a prisoner to the wind, a bird on the
De retour dans votre émission Histoire et Mémoire, consacrée à l'histoire locale de la ville de Chartres. Je suis aujourd'hui avec mon collègue Stéphane Herouin, anthropologue. Nous avons abordé dans la première partie de notre émission les pratiques funéraires, la connaissance de ces gestes qui accompagnent les défunts et qui donnent donc un éclaircissement sur les pratiques et les croyances des vivants. Et maintenant, nous allons aborder un thème un peu plus particulier, une découverte qui a vraiment retenu votre attention, Stéphane. Vous pouvez nous en dire plus ?
Alors oui, donc comme on disait tout à l'heure, il s'agit de la grande fosse de Saint-Martin-en-Val, donc qui effectivement était un sanctuaire pendant la période antique. Donc grande fosse qui est située en façade de ce sanctuaire, donc du côté oriental, et qui à la fin du IIIe siècle a reçu le dépôt de plus d'une centaine d'individus. Alors il faut savoir que cette fosse existait au préalable, donc le sanctuaire était abandonné à cette époque.
Donc elle n'est pas creusée exprès en fait.
Non, elle n'est pas creusée exprès pour le dépôt des corps, puisque en fin de compte, les chartrains de l'époque, on va dire, viennent récupérer les remblais qui sont en façade de ce sanctuaire, puisque ces remblais sont totalement épurés de silex, et donc c'est très intéressant comme matériau de construction. Donc il s'agit en fin de compte d'une carrière à ciel ouvert, on va dire, au départ, cette fosse.
Et sait-on, Stéphane, pourquoi ils ont été enterrés ici, sur ce site ?
Comme je viens de le dire, en fin de compte, cette fosse existe au préalable, donc il s'agit probablement d'opportunisme, on va le dire. Alors pourquoi ils déposent ces morts ici ? En fin de compte, on se rend compte qu'au départ, ils ont le temps d'installer des vraies sépultures, c'est-à-dire qu'ils vont creuser des fosses pour installer les individus, et ça, c'est à peu près une dizaine, on va dire, de sépultures avérées. Et puis on a l'impression qu'ils doivent faire face à un nombre de morts assez important et qu'ils n'ont plus le temps de creuser des fosses. Et donc ils vont profiter de cette grande fosse monumentale pour venir déposer les morts directement dans la fosse.
Et donc il y a un grand nombre de corps, vous allez nous expliquer tout ça, mais du coup, comment sait-on qu'il s'agit vraisemblablement d'une épidémie ?
Alors en fait, effectivement, on voit que ces dépôts de corps, donc je rappelle, hein, on est à peu près à 130 pour l'instant dans les décomptes, les études ne sont pas totalement terminées, donc ça peut encore augmenter, mais c'est 130 au minimum. Ils sont déposés dans un temps relativement bref, puisque on va dire qu'on est probablement, d'après les datations, entre 10 et 25 ans de dépôt au grand maximum, hein, donc ça veut dire que ça peut être encore nettement plus court. En fait, un dépôt de nombreux morts en un temps relativement bref, bien sûr, on pense tout de suite à une crise de mortalité.
Oui.
Alors, il y a trois causes principales pour une crise de mortalité. C'est soit l'effet de guerre ou de violence, mais nous n'avons aucune trace de mort violente sur les ossements. Soit une famine, mais là aussi, ça laisse des traces sur les ossements et nous n'avons pas ces traces. Soit une épidémie.
Et là, comment vous menez vos recherches pour arriver à cette conclusion que vous avez éliminé donc les deux faits de violence et famine ? Et là, sur l'épidémie, est-ce que vous arrivez à avoir des indices sur l'épidémie qui aurait donc décimé cette population ?
Alors, tout à fait. C'est donc une de mes collègues, Géraldine Sachaud-Carcel, qui est venue réétudier une partie de la série. Et qui, à partir d'une analyse fine sur les âges des individus en particulier, a montré que le profil de mortalité, alors c'est un terme un peu technique, je m'en excuse, mais en fin de compte, nous répartissons les individus, les enfants, les adultes jeunes en classes d'âge, on va dire.
D'accord.
Et on va regarder, en fin de compte, un profil d'après ces classes d'âge, voir s'il se rapproche d'une mortalité naturelle ou voir s'il s'en éloigne. Et là, bien sûr, il s'en éloigne fortement. Nous avons, par exemple, des classes d'âge qui sont nettement surreprésentées par rapport à ce que ça devrait être, en particulier à partir de 5-9 ans.
D'accord.
Par exemple, dans
beaucoup
une population naturelle,
jeunes.
Ce qu'il faut savoir,
oui.
c'est que les 10-14 ans sont les moins représentés dans une courbe de mortalité.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on a le moins de chances de mourir entre 10 ans et 15 ans, on va dire. Or là, ils sont nettement surreprésentés à partir de 5 ans.
Donc les jeunes ont vraiment été affectés par cette épidémie.
C'est-à-dire que ce n'est pas les plus jeunes qui, eux, correspondent à peu près à une... Enfin, ils sont un peu sous-représentés même. Mais à partir des 5-9 ans, on va avoir une nette surreprésentation par rapport à une population naturelle. Et ça, ce type de profil de mortalité, ça correspond à un profil de mortalité de peste.
Et est-ce qu'il était connu en Gaule, une épidémie de peste ? Est-ce qu'il y a d'autres faits historiques ou archéologiques qui vous permettent d'étayer cette thèse ?
Alors tout à fait, et c'est là que l'apport des textes aussi est important, quand on étudie la période antique en particulier, puisque dans les textes, nous avons mention d'une peste, qui est la peste de Saint-Cyprien, donc qui a touché tout l'Empire romain, hein, donc elle vient d'Éthiopie au départ.
D'accord.
Elle touche l'Afrique du Nord et elle touche toute l'Europe occidentale, donc c'est une très grosse vague de peste. Donc entre 251 et 260 après Jésus-Christ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au plus fort de l'épidémie, quand même, elle faisait 5000 morts par jour à Rome, et quand même qu'elle est probablement la cause de la mort de deux empereurs, hein, qui sont Hostilien en 251 et Claude II le Gothique en 270. Alors on voit que lui, il est mort après le pic de l'épidémie, mais bien sûr, on ne meurt pas facilement de la peste tout de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne connaît cette épidémie de peste que dans les textes.
Donc Stéphane, si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'à Chartres, on aurait une preuve, au moins là, sur le terrain, grâce aux recherches archéologiques, un témoignage malheureusement malheureux, mais qui viendrait du coup confirmer cette présence de la peste à l'époque antique.
Alors s'il s'agit bien de la peste, mais ça il faudra faire des analyses plus poussées, des analyses sur l'ADN bactérien en particulier, eh bien nous aurions effectivement à Chartres la première trace archéologique de cette peste en Europe, puisqu'elle a été découverte en Égypte il y a très peu de temps, mais en Europe pour l'instant elle n'est pas connue de façon archéologique.
Merci Stéphane pour cette explication et puis ce fait donc original malheureusement de cette grande fosse liée au site de Saint-Martin-en-Val. C'est ainsi que nous allons conclure notre émission. On va se retrouver très prochainement avec Stéphane pour aborder les autres pratiques funéraires au siècle suivant. Je vous invite à réécouter l'émission sur le site de Radio Grand Ciel ou la télécharger. Et n'hésitez pas non plus à regarder le site archéologie.chartres.fr pour découvrir d'autres découvertes archéologiques. À très bientôt.